Chaud devant à Saint-Pierre pour la 3, une religieuse pour la 7 et une bouteille de Saint-Émilion pour la 12.
Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
et comme plat principal,
les anges ont-ils des ailes ?
Salut Marc.
Salut Samuel.
Lorsque tu as un message urgent à faire passer à quelqu'un, comme un client important par exemple, comment tu fais ?
Bah, je l'appelle avec mon téléphone portable.
Bon. Et si ton téléphone portable est en panne ?
Bah, je prends mon deuxième téléphone portable.
Bon, d'accord. Mais bon, si le réseau est complètement bloqué.
Bah, si c'est vraiment urgent, j'envoie un coursier.
Et à ton avis, Dieu, à ta place, comment il ferait ?
Comment Dieu fait pour envoyer des messages urgents quand le réseau est bloqué ?
Fais un effort, Marc. Comment Dieu fait pour nous transmettre des messages ?
Bah, facile. Il nous parle par sa parole. Et sa parole, c'est la Bible. Et c'est pour ça que vous êtes tous invités au Festival de la Parole, qui aura lieu le 17 mai 2007 au Parc des Expositions de Caen.
Marc, Dieu nous parle par sa parole, certes. Et la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit sur la manière dont Dieu transmet des messages précis ? Elle ne parle pas d'un moyen très particulier, un moyen de communication spirituelle entre Dieu et les hommes ?
Tu veux parler de la prière, non ? C'est ça ?
Non, je veux parler des anges ! Les anges, nom d'un chien. C'est pourtant pas compliqué, c'est le thème de l'émission du jour.
Ouais, d'accord, d'accord. Bon, les anges si tu veux. Les anges, nom d'un chien, d'accord. Mais c'est pas la peine de s'énerver, j'ai compris. Les anges, bon, ils permettent à Dieu de communiquer rapidement d'un point à l'autre de la planète. Normal, tu me diras, ils ont des ailes.
Ah bon, les anges ont des ailes ?
Ça me paraît évident. Tu sais pas ça, toi ? Avec tout ce que tu connais, tu sais pas que les anges ont des ailes ? C'est quand même la base quand on parle des anges.
Ah bon, et tu peux me le prouver ?
Bah non, je peux pas te le prouver, parce que les anges, ils sont invisibles. Ce sont des purs esprits. Mais ils ont quand même des ailes, c'est sûr, ça.
Tu peux répéter, s'il te plaît ?
Les anges n'ont ni figure, ni forme sensible, parce qu'ils sont de purs esprits, créés par Dieu pour subsister sans devoir être unis à un corps.
T'as appris ça où ?
Ah, c'est ma grand-mère qui me l'a dit.
Et t'en déduis quoi ?
Bah, que les anges sont de purs esprits et qu'ils n'ont pas de corps. Mais qu'ils ont quand même des ailes.
Donc, toi, ça ne te gêne pas qu'un esprit sans corps ait des ailes ? Tu m'expliques comment ils font pour n'avoir pas de corps mais des ailes ? Ce sont des esprits ou des oiseaux ?
Bon, c'est pas la peine de faire ton athélo, hein. De toute façon, c'est écrit dans la Bible, alors...
Très bien. Si c'est écrit dans la Bible, lis-moi un passage qui en parle. Quel passage parle des anges ?
Bah, y a l'ange Gabriel, qui annonce à Marie qu'elle est enceinte.
Et il est dit qu'il a des ailes ?
Non. Bon, c'est bizarre. Enfin bon, y a d'autres anges.
Par exemple ?
Bah, les anges qui annoncent que Jésus est ressuscité, en Luc 24. Attends, je te lis. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. »
Et c'est tout ? On ne dit pas qu'ils ont des ailes, il me semble.
Non, c'est vrai. Mais bon, ils ont des habits éblouissants. Ça montre que ce sont des anges, non ?
Oui et non. Si les femmes au tombeau n'avaient vu que deux hommes en habits éblouissants sans qu'ils ne disent rien, alors il aurait été impossible de savoir si c'était des anges. Mais comme ils leur ont annoncé quelque chose, ce sont définitivement des anges.
Ah bon ?
Le mot « ange » en français vient du grec « angelos », qui veut dire « messager ». Un ange est avant tout celui qui transmet un message. Il n'est pas d'abord un petit être ailé qui brille, sinon les lucioles deviennent particulièrement suspectes.
Bon, d'accord, d'accord. Donc un ange, c'est un messager divin. Il transmet la parole de Dieu. Très bien. Et donc, les anges n'ont pas d'ailes.
Tout dépend de ce qu'on entend par « ailes ». Bien sûr, si les anges ne sont que des esprits, ils n'ont pas d'ailes. Mais parfois, mystérieusement, les anges peuvent prendre une apparence corporelle. Et la Bible décrit de nombreuses apparitions d'anges, toutes plus extraordinaires les unes que les autres.
Comme le passage d'Ézéchiel qu'on a lu l'autre jour, où les anges ressemblent à s'y méprendre à des extraterrestres.
Ouais, sauf que j'ai jamais vu d'extraterrestres. Mais c'est vrai qu'Ézéchiel est un bon exemple. Et Isaïe aussi.
Bon, alors je lis Isaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun six ailes, deux dont il se couvrait la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée.
Tu vois, on voit bien qu'il ne s'agit pas de lucioles. On les décrit avec six ailes.
Six ailes ?
Oui, et le texte précise deux pour se couvrir la face, deux pour se couvrir les pieds, deux pour voler. On est certain qu'il s'agit bien d'anges car ils annoncent quelque chose. Ils crient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ».
Comme dans le Sanctus, à la messe.
Évidemment, ça vient de là.
Mais attends une minute, Samuel. On parle pas d'anges dans ce texte, on parle de séraphins. C'est pas la même chose. C'est quoi un séraphin ?
Un séraphin, c'est justement un type d'ange. Il existe plusieurs types d'esprits créés par Dieu. Pour nous, ces choses-là sont difficilement accessibles, parce qu'il s'agit de décrire le monde invisible. Mais le mot séraphin en hébreu, ça veut dire quoi ?
Le brûlant, celui qui brûle.
Eh oui, celui qui brûle. Ce qui explique pourquoi les anges de la vision d'Isaïe mettent deux ailes devant leur face. Car même en tant que pur esprit, ils se cachent la face lorsqu'ils regardent Dieu. Et ils brûlent dans leur contemplation de Dieu.
Dans les psaumes, on dit que Dieu est assis sur les chérubins. Eux aussi, ce sont des anges ?
En hébreu, kéroubim, ça veut dire les brillants. Eux ont pour fonction de garder les endroits sacrés. Par exemple, l'arche d'alliance. Dans la hiérarchie céleste, on les classe sous les séraphins.
Comment ça, sous les séraphins ?
Eh bien, les théologiens chrétiens et les sages juifs ont étudié ces questions d'anges. Et ils décrivent les anges avec 9 catégories. Ces 9 cœurs d'anges représentent des fonctions différentes chez les anges. Saint Paul en parle aussi dans ses lettres.
Et comment s'appellent ces classes d'anges ?
Les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges.
C'est des drôles de noms.
Oui, ce sont des manières toutes humaines de décrire les anges. Après, il faut approfondir les questions en lisant les ouvrages de théologie.
Mais dis-moi, et Satan, c'est un ange ou pas ?
Satan, c'est un ange, oui, mais un ange déchu. Il reste donc un esprit, mais il s'effondre sur lui-même, s'enferme, et s'énerve sur la création et les hommes.
Si c'est un esprit, il n'a pas de corps non plus ?
Non, il n'a pas de corps.
En conséquence, il n'a pas la peau rouge, puis il n'a pas des cornes sur la tête.
C'est sûr. D'ailleurs, le mot Satan, Shatan en hébreu, ça veut dire ennemi, adversaire. Et comme Satan est justement celui qui s'oppose à Dieu, qui se rebelle contre lui, il est l'ennemi de Dieu par excellence. Mystérieusement, il en reste pas moins une créature de Dieu.
Dieu a créé Satan ?
Ouais, et si ça te choque, figure-toi qu'il a aussi créé Hitler et Staline et Slobodan Milosevic.
Mais pourtant Dieu, il est bon, il est amour, non ?
Dieu crée et aime toutes ses créatures. C'est justement parce qu'il les aime qu'il les laisse libres de leurs actes. Si Dieu nous forçait à l'aimer et à le servir, s'il nous imposait d'être bons avec les autres, alors nous ne serions plus libres, et il serait un tyran.
Ouais, mais quand même, pourquoi est-ce qu'il a créé Satan ? S'il est Dieu, il devait bien savoir que celui-là allait mal tourner, non ?
Qui peut savoir cela ? C'est bien mystérieux. Mais Dieu n'a pas créé le mal en Satan, c'est Satan qui a choisi de rejeter Dieu.
Enfin, on parle de tout ça, mais ça vient d'où ces traditions ? Où parle-t-on de Satan dans la Bible ?
On en parle à plusieurs endroits, parfois de manière directe, parfois de manière allégorique. C'est un passage du prophète Ézéchiel qui nous raconte la chute de Satan, due à son orgueil.
Mais est-ce que Satan peut faire ce qu'il veut ?
Il peut faire beaucoup de choses. Et malheureusement, tout ce qu'il sait faire, c'est détruire et faire le mal. Plus simplement, s'opposer à Dieu, donc à l'amour. Mais il est certain qu'il n'est pas l'ennemi de Dieu, comme s'il pouvait être aussi puissant que Dieu lui-même. Satan rêve d'être aussi puissant que Dieu, mais il reste une créature comme toi et moi. En conséquence, il est inférieur à Dieu et il n'a pas la capacité de faire totalement ce qu'il veut. Seul Dieu décide vraiment des conséquences des choses. On a un bel exemple de cela dans le livre de Job.
Et Job, c'est l'histoire d'un homme droit à qui il arrive plein de malheurs, c'est ça ?
Ouais, et il est intéressant de voir comment tout cela commence. Or, un jour, les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan vint aussi parmi eux.
Le Seigneur dit à Satan, « D'où viens-tu donc ? » Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. »
Alors le Seigneur demanda à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de faire le mal. »
Satan lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu ? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison, autour de tous ses biens ? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. »
Alors le Seigneur dit à Satan, « tous ses biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. » Ce passage montre que Dieu permet à Satan de tenter les hommes, et c'est le rôle principal de Satan, si l'on peut dire. Il cherche à faire du mal aux hommes pour que ceux-ci rejettent Dieu.
À ce compte-là, on peut dire qu'il est plutôt efficace si on regarde notre monde.
Peut-être. Mais il ne faut pas parler de Satan sans dire la vérité sur lui. Par Jésus-Christ mort sur la croix, Satan, le diable, l'ennemi de Dieu, a été vaincu et il a perdu.
Il a perdu, mais il continue d'agir.
Il agit toujours parce que nous le laissons agir. Mais Jésus-Christ l'a vaincu, ce qui fait que la victoire sur le mal est assurée. Cependant, ça n'est pas nous qui pouvons savoir comment les choses évolueront dans l'avenir. Notre rôle est de garder l'espérance vivante et forte.
Et qu'est-ce qui nous assure que Satan a perdu ?
La résurrection du Christ, bien sûr. Et ensuite, l'échec de Satan est prédit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20.
Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne.
Il se saisit du dragon, de ce serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans.
Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui, en y mettant des scellés afin que le dragon ne puisse plus égarer le peuple avant le terme des 1000 ans.
Et un peu plus loin,
des nations s'ébranlèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp du peuple de Dieu et la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma.
Alors le diable qui les trompait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Il y rejoignit la bête et le faux prophète, et ils y subiront des tourments, jour et nuit, pendant l'éternité.
Eh bien, bon débarras, plus besoin de celui-là. Mais je me posais une question. Les anges, ils sont combien ? Et puis est-ce qu'ils se reproduisent ? C'est vrai, ça se tient. Est-ce qu'ils se reproduisent, les anges ? Et puis s'ils se reproduisent, ça voudrait dire qu'il y a des anges femelles et des anges mâles, non ? Et donc,
est-ce que l'ange... C'était Moïse en entrée, Jésus au dessert, une émission dans la dynamique du Festival de la Parole, présentée par Samuel et Marc Landon.
Plat du jour de la semaine prochaine.
Comment devenir prophète en 10 leçons ?